Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Où en sommes-nous aujourd'hui du recul du trait de côte en Bretagne ? Quel est son impact sur la biodiversité et comment répondre à ce phénomène, notamment lié au changement climatique ? Avant d'en parler dans quelques minutes avec Raphaël Bénaud, chef du groupe Risques naturels et littoraux au laboratoire Saint-Brieuc du CEREMA, direction la commune de Plounéour-Brignogan-Plage, qui a mis en place une série d'actions pour répondre à l'érosion littorale importante sur son trait de côte. C'est un reportage signé Inès Florentin de Fréquence Mutine, votre radio associative locale dans la région brestoise.
Continuez tout droit, puis prendre légèrement à droite. Votre destination se trouvera sur la droite.
Étant donné la météo, j'ai retrouvé Sandrine Abgral directement à la mairie de Plounéour 13. Bonjour Sandrine, je vais d'abord te laisser te présenter, puis évidemment présenter la commune.
Donc Sandrine Abgral, maire déléguée de Plounéour 13 et adjointe au maire sur la commune de Plounéour-Brignogan-Plage. Donc c'est une commune de 14 km² avec 12 km de côte. On est une commune avec 2000 habitants à l'année et 5000 habitants en saison estivale. La commune de Plounéour-Brignogan-Plage en fait est issue du remariage de la commune de Plounéour 13 et Brignogan, donc qui avait divorcé en 1934 et remarié en 2017. Voilà, donc on commence à être un jeune adolescent, on va dire maintenant.
Comment la commune alors préserve-t-elle le littoral ? Donc il y a 12 km de côte, c'est quand même assez énorme.
Alors il y a différents points pour préserver le littoral. Il y a d'abord parfois aussi des règles d'urbanisme qui nous protègent avec la loi littorale déjà qui existe depuis 1986, qui préserve ce qu'on appelle les espaces proches du rivage, qui interdit des constructions en dehors des espaces urbanisés. Donc là, on a les codes de l'urbanisme qui, nous, on ne le prend pas comme une contrainte, mais vraiment un moyen de préserver notre côte. On est en pleine réécriture d'ailleurs de notre PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, et on a fait le choix, porté par de nombreuses autres communes du littoral, de vraiment préserver ce littoral en se mettant des règles d'urbanisme peut-être même un peu plus poussées, on va dire, et en faisant le choix de bien les identifier pour les préserver. Sur la commune, les autres moyens que l'on a pour préserver le littoral. On a des installations de ganivelles pour un peu canaliser les flux. On a des espaces vraiment réservés aussi pour la nidification de certaines espèces. On a notamment le fameux gravelot à collier interrompu ou les chasses blanches aussi qui viennent nidifier sur nos côtes, et avec des belles réussites d'ailleurs depuis quelques années maintenant, puisque notamment sur les chasses blanches, depuis très longtemps, elles arrivaient à pondre, mais les petits n'arrivaient pas, et depuis 2022 on a à nouveau des petits qui arrivent, donc on est ravis de ça. Donc on essaie de faciliter aussi les déplacements doux sur notre côte en favorisant la marche à pied ou le vélo, et en mettant des espaces de parking pour les voitures pour pouvoir ramener après les gens à plutôt marcher. Voilà, on privilégie aussi là une pêche dite durable. Donc il y a beaucoup de panneaux d'information qui expliquent ce que l'on doit faire ou pas faire par rapport à des retournements de rochers ou des choses comme ça. On travaille aussi par rapport à la gestion des déchets. Alors là, c'est vrai qu'à un moment, on avait été parti sur de mettre à disposition des poubelles de plage que l'on a décidé tout compte fait de retirer, puisqu'on s'était rendu compte que plus on mettait de poubelles, plus il y avait de déchets. Donc là, c'était un petit retour en arrière par rapport à une expérience. Et c'est vrai que depuis 2 ans, les poubelles de plage, en saison estivale notamment, ont été retirées. Et même si certains trouvent que ça ne paraissait pas la bonne option, en tout cas par rapport au nombre de déchets que l'on a récupérés, ils sont vraiment beaucoup moindres depuis cette option-là. Voilà un petit peu les idées et de ce qu'on met en place sur la préservation du littoral. Sur le trait de côte, c'est vraiment un vaste sujet qui est traité d'ailleurs avec un très fort soutien par la communauté de communes qui a mis en place notamment depuis 2020 en fait, différents ateliers qui s'appelaient les ateliers La Mer Monte, où il y a eu des rencontres avec l'ensemble des publics et des citoyens pour les associer à la prise de conscience sur le recul du trait de côte, puisque le littoral est vraiment un espace vivant et mobile, et donc les aménagements doivent être vraiment pensés pour être de manière durable. Donc il s'agit d'abord vraiment d'informer les gens par rapport aux risques de submersion, d'érosion, d'élévation du niveau de la mer. Et une fois qu'on a bien pris conscience de ces enjeux-là, il s'agit d'adapter notre manière de faire immédiatement et surtout à l'avenir pour des futurs aménagements.
Et puis je suppose qu'avec la tempête Ciaran qui a donc eu lieu début novembre et ensuite évidemment la problématique du recul du trait de côte, je suppose qu'il y a de nouvelles problématiques qui viennent s'ajouter à votre gestion.
Oui, c'est vrai que là on a vraiment pris doublement conscience, notamment par rapport aux arbres, hein, puisque la commune a été spécifiquement touchée par la chute d'arbres et vraiment de très nombreux endroits. Je pense que la création notamment de linéaires bocagers qu'on a fait ou même d'aménagements qu'on a pu faire nous, la collectivité ou alors les particuliers, il va falloir intégrer un petit peu plus la possible déconvenue que l'on pourrait à nouveau avoir avec des tempêtes qui risqueraient sûrement d'arriver à nouveau plus régulièrement et de manière plus intensive. Donc c'est vrai que notamment par rapport à on a énormément de projets là de renaturation de sites ou d'installation de nouveaux espaces bocagers, il va falloir de le faire de manière bien adéquate pour éviter de mettre en danger les gens ou les espaces de bâtiments publics ou de particuliers, bien entendu.
Bienvenue à la mairie de Brignogan-Plage.
Alors en fait, c'est vrai que ce fameux recul du trait de côte implique qu'il faut déjà prévoir des solutions d'adaptation, c'est-à-dire presque même, on est déjà en train de programmer le repli de certaines zones. Donc c'est-à-dire le repli, c'est-à-dire qu'il y a des gens ou des activités économiques qui peuvent être à certains endroits, qui à terme seront soit submergés, soit soumis vraiment à des aléas trop récurrents ou trop prégnants. Il s'agit déjà d'organiser le repli de ces activités-là. Donc c'est des zones à pouvoir proposer aux gens qui habitent, pour pouvoir imaginer à nouveau quand même habiter sur la commune mais pas forcément au même endroit, renaturer des sites, notamment là on a un gros projet sur la commune qui nous sommes en phase, on espère pouvoir le conclure d'ici pas longtemps. On souhaite, la commune s'est positionnée pour acheter un camping, le camping du phare à côté du phare du Pontusval. Il s'agit en fait, puisque le lieu n'est plus exploité depuis déjà de nombreuses années et soumis clairement aux futurs aléas du dérèglement climatique, le projet de la commune est de renaturer totalement ce site-là et d'en faire justement un espace où on pourra parler des enjeux environnementaux et de la sensibilisation à la crise climatique pour que les gens prennent bien conscience. Si on veut que les gens changent les manières de faire, il faut les informer et on aimerait bien que ce lieu assez emblématique, qui est très visité, nous permet de faire passer ces messages importants. Je suis ravie que la question de la gestion du trait de côte, en tout cas si on peut informer, sensibiliser pour pouvoir modifier le comportement de chacun, c'est toujours bon. Hein, c'est toujours bon à prendre ces moments d'échange là. Merci en tout cas de la proposition pour cet échange.
Merci beaucoup, Sandrine.
À l'instant, ce reportage sur la gestion du trait de côte sur la commune de Plounéour, Brignogan-Plage, dans le Nord Finistère. Un reportage signé Inès Florentin de Fréquence Mutine, votre radio associative locale dans la région brestoise. Alors, pour aller plus loin sur ce sujet de l'érosion littorale en Bretagne, nous sommes en liaison aujourd'hui avec Raphaël Bénaud, qui est chef du groupe Risques naturels et littoraux au laboratoire Saint-Brieuc du CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Raphaël Bénaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, peut-être nous expliquer ce que sont les principales missions du CEREMA, notamment dans le sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir l'érosion littorale, le trait de côte?
La particularité du CEREMA sur le sujet, effectivement, l'agence de Saint-Brieuc, on est à proximité du littoral, donc on travaille effectivement en grande partie sur la partie risque aléa au niveau du littoral. Alors le CEREMA en général, il a des missions de diffusion de la connaissance sur ces sujets, diffusion pour les collectivités, mais aussi le portage des politiques publiques, notamment actuellement avec la loi climat et résilience qui prévoit la cartographie du recul du trait de côte. Alors ça, c'est sur un volet un peu national, voire régional, et localement, les agences, puisqu'il y a plusieurs agences sur le CEREMA, sur le littoral, interviennent en urgence ou pour des préconisations ou de confortement ou de diagnostic de stabilité du trait de côte.
On vient d'entendre ce reportage qui a été tourné à Brignogan-Plage dans le Nord Finistère. Comment réagissez-vous à cet exemple que l'on vient d'entendre? Est-ce qu'il est assez emblématique finalement de ce qui se passe et des questionnements qui se posent dans la plupart des communes peut-être touchées par ce phénomène en Bretagne?
Alors il est emblématique à mon avis sur deux points. C'est ce genre de problématique qu'on rencontre régulièrement sur le littoral. Alors là, il y a un littoral qui peut-être, je veux dire, plus sensible parce qu'on est sur des côtes basses ou des côtes sableuses, donc ce sont des littoraux qui sont un peu plus facilement attaquables, entre guillemets. Donc, des problématiques de recul du trait de côte avec des atteintes aux infrastructures, que ce soit les routes ou les habitations. Mais un autre point aussi qui est important et qu'on voit de plus en plus sur ces communes-là, c'est un intérêt important pour cette gestion de recul du trait de côte. Ça se fait depuis longtemps. Mais les mentalités ont quand même évolué, c'est-à-dire qu'on est plutôt maintenant, là on parle de gannivelle, je vois dans le reportage, on parle d'aménagement aussi au niveau de l'urbanisme, donc on est plutôt sur des techniques ou des techniques douces, où on parle aussi on commence à parler de plus en plus de repli, ouais. Repli, enfin entre guillemets stratégique, chose qui était difficile à évoquer il y a une dizaine d'années. Actuellement, ça rentre dans les mentalités parce qu'on a vraiment plus le choix.
Oui, c'est ça. C'est peut-être un déni par le passé sur ce genre d'idée de devoir se replier. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus accepté, a priori.
Oui, alors le déni, c'est parce que, à l'époque, on n'était peut-être pas autant dans le cœur du réchauffement climatique, ouais, quelque part. Ouais, ouais. Là, on s'en rend compte des effets du réchauffement climatique. Ce n'est pas les seuls qui expliquent le recul du trait de côte. Mais les gens ont bien pris conscience de tous ces effets-là et ils savent très bien qu'à un moment donné, c'est pas en confortant le trait de côte ad vitam qu'on arrivera à résoudre tous les problèmes. Quoi.
Alors justement, en dehors du réchauffement climatique, qu'est-ce qui peut expliquer justement que certaines zones, notamment en Bretagne, certains traits de côte, soient particulièrement exposés et doivent subir ce phénomène? Quelles sont un peu les différentes explications, peut-être au-delà du réchauffement climatique?
Alors, la Bretagne, comme toutes les régions, effectivement, subit une érosion. Alors, je dirais que, étant donné la géologie, le trait de côte qu'on a en Bretagne, on est quand même relativement moins impacté, même si on l'est, je ne vais pas minimiser. Si on regarde en Normandie ou dans le golfe de Gascogne, on a des reculs qui sont quand même beaucoup plus importants. Alors, les problèmes en Bretagne, c'est souvent sur les falaises, qu'on appelle des falaises meubles, c'est des falaises avec des formations assez tendres. Et les sources de ces problèmes-là, nous on s'en aperçoit, c'est souvent une source continentale. c'est souvent les phénomènes pluviométriques qui accentuent cette érosion. On a un premier effet, c'est-à-dire qu'on a l'eau continentale qui va venir charger les formations sur les falaises, et ensuite on a la mer qui arrive en pied et qui déséquilibre l'ensemble de ces falaises, et donc ça entraîne un recul du trait de côte. Ce que je veux dire par là, cette partie pluviométrie, elle s'accentue aussi avec l'urbanisation. Malgré les plans locaux d'urbanisme, hein, qui sont quand même de plus en plus restrictifs, il y a encore de plus en plus d'enrobés sur la route, qui fait que ça entraîne un ruissellement qui peut être aggravant aussi pour le trait de côte. Après, on a des phénomènes classiques de forçage avec... la Bretagne est exposée, on a des vents, on a des marées, on a des courants importants. Mais on a quand même, en Bretagne, un littoral qui est rocheux et qui est relativement résistant.
Ouais, donc un phénomène quand même de ruissellement qui vient de l'intérieur finalement. Le trait de côte un peu pris en tenaille entre la mer et puis les phénomènes continentaux, avec des sols peut-être de moins en moins perméables vu l'urbanisation, c'est bien ça?
C'est ça. Ça vient accentuer effectivement ce phénomène. Alors, on nie pas le réchauffement, le rehausse du niveau de la mer, mais en même temps, ces problèmes de pluviométrie et d'urbanisation qui se densifient, parce qu'il faut bien à un moment donné aussi rejeter les eaux de toiture, la pluviométrie. Donc, tout ça, ça a un effet aussi cumulé qui accentue ce recul.
Raphaël Benoît, est-ce qu'on peut citer peut-être quelques zones parmi les plus exposées en Bretagne? Elles se situent où environ? Est-ce que c'est localisé à certains endroits en Bretagne?
Alors, ça serait un peu stigmatisé des...
Oui.
Je ne veux pas trop faire. Par contre, ce sont les zones basses. Alors, sur les Côtes d'Armor, c'est là où on a des zones de plage assez importantes. Dans le nord du département, on en a. Sur le Finistère, c'est plutôt le sud du Finistère où on a des grandes plages. Hein, elles sont connues. Le Morbihan aussi, on a de part et d'autre de Vannes, on a des cordons qui sont assez importants mais qui sont attaqués. Donc, on va retrouver les zones qui sont les plus impactées, surtout sur ces zones basses, ces zones de plage. Par contre, l'exposition du trait de côte, ça revêt plusieurs aspects. C'est-à-dire, ça peut être d'exposition au vent, à tempête ou autre. Mais quand on parle d'exposition, c'est aussi par rapport aux enjeux. Parce qu'il y a des endroits où il y a des zones basses, mais derrière, on n'a pas nécessairement d'enjeux, quoi. Donc les zones exposées, c'est les zones les plus urbanisées, avec des formations qui sont des formations un peu plus tendres, et qui seront au fil du temps soit confortées, il y en a déjà pas mal qui sont confortées, c'est-à-dire consolidées, ou alors il faudra à un moment donné réfléchir à ce repli stratégique, hein, dont parle Madame Abgral de la commune de Plonéour. Il faudra petit à petit penser à ce recul, j'anticipe un peu, mais qui existe, qui a déjà été pensé sur des communes assez importantes comme Lacanau, hein, il y a des projets qui sont en réflexion, mais ponctuellement aussi, nous, on le propose lorsqu'il y a quelques maisons, voilà, les communes peuvent entendre ça, ils ne sont plus dans le tout confortement, on peut aussi... réfléchir à ramener quelques maisons en arrière du trait de côte. Alors ça implique une restructuration aussi, les routes bien sûr, tout ce qui est accès. Donc voilà, ça demande aussi à repenser un petit peu tous ces paysages. Alors ça c'est un des volets aussi du CEREMA, c'est que on est sur la partie aléa risque où nous on indique attention ça. Ça peut reculer, mais après, on propose aussi des projets d'aménagement. On a des équipes chez nous aussi qui travaillent sur ces sujets-là.
Quand on parle de recul de trait de côte, est-ce que c'est toujours visible à l'œil nu? Est-ce que les populations s'en rendent compte facilement? Quand on vous mesurez le recul d'un trait de côte, la population elle-même ou les visiteurs se rendent compte de quelque chose?
Les façons de mesurer le recul du trait de côte, on peut le faire ponctuellement. On voit des blocs qui tombent sur une dizaine de mètres, mais il faut relativiser. Il faut voir ça à l'échelle d'un ensemble ou d'une commune. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on regarde ça à l'échelle On regarde sur des photos aériennes multidates, entre 1950 à peu près et 2010, on compare un peu tout ça, et là on a vraiment une indication, on est sur le long terme. L'être humain, il a, je vais dire, un peu la mémoire courte, c'est-à-dire qu'il a vu des rochers tomber, des blocs tomber, et il se souvient pas qu'il y a 20 ans, ça bougeait pas, quoi. Voilà. Quand on relativise sur le temps, c'est pas facile, effectivement, de regarder ponctuellement comme ça et d'évaluer un recul du trait de côte. Mais avec les techniques qu'on a actuellement, les études qui sont faites actuellement, dont les cartes, dans le cadre de la loi climat et résilience, les cartographies de recul du trait de côte, là, on va pouvoir dire à telle ou telle commune, ce linéaire-là, vous avez, sur 100 mètres, par exemple, vous avez du recul qui va pouvoir impacter à un moment donné les structures.
Alors, j'imagine que vous prévenez justement ces communes exposées. Quels peuvent être les risques réels pour les populations de ces zones ? On parlait tout à l'heure de l'idée de devoir se replier. Les risques véritables sont parfois assez urgents à traiter ?
Alors, on a quelque part en Bretagne un peu plus de temps que dans certaines communes, puisqu'on a des massifs ou des falaises qui s'érodent, mais de façon régulière. Si on compare avec ce qui se passe dans le nord, par exemple, ce sont des écailles de 5 mètres qui peuvent partir. Là, il peut y avoir effectivement urgence. Nous, on a un peu plus de temps, mais n'empêche qu'il ne faut pas perdre ce temps-là pour réfléchir à ces délocalisations. Il y a des infrastructures, des routes, des départementales notamment, qui sont à proximité du bord de mer. Ce sont des axes importants de liaison, mais ce sont des axes aussi touristiques importants qu'il faut réussir ou à préserver ou à délocaliser. Et puis, il y a effectivement toutes les habitations qui sont en bord de mer et qui, à un moment donné, ils auront une réduction de leur surface de jardin, mais ça peut aussi, à un moment donné, atteindre les maisons. Alors, avec les cartes qui sont en train d'être produites sur tout le littoral, il y a moyen à long terme. Il y a d'abord une échéance à 2030 et en plus, et après 2100 ou 2120. Donc, il y a moyen d'anticiper des choses quand même. Mais il faut déjà commencer à réfléchir à cela sur le long terme et à un aménagement global, quoi.
Et à sensibiliser les populations aussi à ces risques, j'imagine. Pour ce qui est de l'impact de ce phénomène sur la biodiversité littorale, est-ce que vous mesurez aujourd'hui aussi les effets de cette érosion littorale sur tout ce qui est biodiversité, écosystème, sur la côte?
Il y a un impact sur tout ce qui est espèces un peu endémiques, comme les grands corbeaux ou les rapaces, qui peuvent nicher sur les falaises, et puis effectivement, où il y a tout ce qui est hirondelles des fenêtres, qui peuvent à un moment donné être obligées de se déplacer. Et puis, on a les cordons dunaires lorsqu'ils sont atteints. Au niveau des cordons dunaires, on a toute une faune-flore qui est quand même assez importante, assez développée, insectes et autres, et qui sont impactés. Alors, il y a dans bien des cas aussi, au niveau des cordons dunaires, on réfléchit sur des sujets de relier la mer avec les zones de marée rétro-littoraux. C'est-à-dire qu'il y a dans bien des cas des cordons dunaires qui s'ouvrent, ou même des digues qui s'ouvrent et qui laissent passer la mer. Et derrière, on a aussi un changement de la biodiversité. Alors ça, c'est suivi par l'Office de la biodiversité et le Conservatoire du littoral, pour regarder petit à petit, on puisse avoir un remplacement des espèces, disons, qui vivent dans des milieux d'eau douce et qui petit à petit vont aller sur des milieux salins. Donc il y a des observations, ça se fait chez nous, en Bretagne, heureusement encore une fois, on a un peu de temps pour suivre les choses, pour évaluer les choses, et voilà. Donc la biodiversité, effectivement, il y a un impact, mais il y a quand même des moyens de parer un petit peu ces catastrophes, quoi, entre guillemets, quoi.
Ouais, c'est en tout cas de faire en sorte que une biodiversité puisse se réadapter derrière, par exemple, un cordon dunaire. C'est bien ça, quoi.
Alors, la biodiversité, on remarque qu'elle arrive, lorsqu'on la contraint pas, elle arrive à se remettre en place, petit à petit. Elle remplace peut-être une autre espèce, mais elle arrivera à se remettre en place. La biodiversité, c'est tout ce qui est poissons, toutes ces espèces-là, les oiseaux, les limicoles qu'on voit en bord de mer. Là, ils ont besoin aussi de ces espaces-là pour se développer. Sur les zones basses, voilà. Alors après, sur les zones à falaise, avec, je parlais des, que ce soit des rapaces ou des corbeaux, je sais qu'il y en a du côté du Cap Sizun, voilà. Mais effectivement, c'est des espèces quand même assez fragiles, endémiques. Ça les impacte aussi nécessairement, quoi. Et là, c'est peut-être un, là, je suis moins spécialiste du domaine, mais c'est peut-être un peu plus compliqué de réintroduire après ces espèces-là lorsqu'on a un pan de falaise qui est tombé, quoi.
Face à l'érosion littorale, face au recul du trait de côte, quelles sont peut-être les principales mesures que l'on peut ou doit prendre face à ce phénomène, en tout cas pour le faire peut-être ralentir, pour le stopper peut-être. On parlait tout à l'heure de la stratégie du repli, mais avant le repli, comment on peut peut-être agir sur ce phénomène ?
Alors, avant le repli, ce qui est important, c'est quelque part une forme d'accompagnement de ce repli. Il ne faut pas que ce soit brutal non plus pour les populations. Il faut leur laisser le temps aussi d'accepter et puis d'accepter le départ. Donc les méthodes sont plutôt des méthodes douces que nous on préconise. Alors on a parlé de ganivelles, hein. Effectivement, les ganivelles, ça permet aussi de limiter le piétinement, parce que ça c'est quelque chose de, on s'en rend pas compte. Une personne passe sur un cordon dunaire, elle se dit je fais pas de désordre. Et quand on a des centaines de personnes qui passent tous les jours, ça peut cisailler des cordons dunaires, donc à un moment donné ça fesse. Après nous on propose des solutions qui peuvent se mettre en pied de falaise, des solutions qui sont réversibles et qui permettent de stabiliser quelque temps les falaises, des solutions douces. Hein. C'est du bois, c'est des pieux chênes. On limite de plus en plus, et puis de toute façon, l'État des DTM interdit tout ce qui est confortement dur, enrochement. Il faut savoir, et ça c'est accepté aussi maintenant, c'est que les enrochements ou les solutions en dur ont souvent un impact plutôt négatif. Ça conforte à un côté et ça déséquilibre de l'autre, quoi. Donc, il y a toutes ces solutions déjà, un peu des solutions mécaniques. Et après, il y a la gestion des eaux pluviales. C'est-à-dire qu'il faut limiter, si l'on peut, au maximum, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées. Parce qu'il y a des habitations qui ont encore des eaux usées qui se déversent sur la falaise. Donc voilà, c'est la gestion aussi de ces rejets qui est important. La falaise reculera, mais reculera moins vite. Elle va réussir à reprendre un peu de végétation, se conforter, et ça donnera le temps aux personnes de petit à petit de se replier, quoi.
Justement, pour encore plus diffuser cette connaissance au-delà de notre entretien, est-ce que vous pourriez peut-être nous conseiller des références sur Internet ou des ouvrages, peut-être ?
Moi, je vais effectivement... Pas que vous parlez du CEREMA, mais au CEREMA, vous allez sur le site intranet du CEREMA. Il y a beaucoup d'infos sur l'érosion, notamment ce qu'on avait produit il y a quelques années sur l'indicateur national d'érosion, où on voit la cartographie sur le littoral métropolitain métropolitain en recul. Toujours au niveau du CEREMA, des fascicules qui sont appliqués à la région Bretagne. Il y en a, de mémoire, il y en a une dizaine sur le littoral, ça s'appelle Dynamique et évolution du littoral, où là, on a des informations sur tout ce qui peut se passer sur le littoral. Sur les sites aussi de l'université, de l'UBO, vous allez aussi trouver beaucoup d'informations. Et puis, il y a un troisième partenaire auquel il faut aussi penser, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, hein, qui travaille aussi avec nous. Sur ces problématiques-là.
Raphaël Bénaud, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc chef du groupe Risques naturels et littoraux au laboratoire Saint-Brieuc du CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Je rappelle le site, l'adresse du site internet du CEREMA, le www.cerema.fr. Merci beaucoup, Raphaël Bénaud.
Merci.
Vous rappelez également que toutes nos émissions sont diffusées sur 15 de vos radios locales associatives en Bretagne, sur Radio Boa, leur émanation régionale. Et puis vous retrouverez également la série en podcast sur le site de Radio Boa, radioboa.bzh, et le site de la Corlab, corlab.org. À très vite donc pour un nouvel épisode de Biodiversité en Air. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.